Les invités du podcast Diptyque sont artistes, galeristes, curateurs, conservateurs de musées. Certains d'entre eux me sont très familiers parce que nos routes se croisent depuis la création du magazine en 2009. D'autres me sont inconnus. Sur le mode de la conversation, j'essaie de capter ce qui fait la particularité de mon invité et je vous offre ainsi avec ce podcast un portail intime et unique sur les acteurs de l'art contemporain arabe et africain. Le podcast Diptyque vous est offert avec le soutien du groupe Maroc Télécom, partenaire de l'art et de la création. Chers auditeurs du podcast Diptyque, bonjour. Aujourd'hui, je reçois dans le hall de la Mamounia, nous sommes en pleine 154, et je reçois Aliou Diack, que j'ai découvert à la galerie Sitor Senghor, à la Biennale de Dakar, je crois que c'était en 2018, à l'occasion du OFF, marché malien, est-ce que je me trompe?
Oui, avec le laboratoire Agitar.
Exactement. Et je me souviens avoir été fascinée par une pâte très particulière qui semblait tout entière émerger de la nature. On n'était pas dans la reproduction de la nature, mais plutôt dans une construction qui semble émaner de la nature. Je dirais que les peintures d'Aliou Diack, artiste sénégalais, fonctionnent un peu comme des dioramas. On entre dans une nature, dans une scène de nature qui est parfaitement reconstituée. Mmh. Eh bien, Aliou, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec moi pour cet épisode du podcast.
Ben, merci à vous, c'est un plaisir aussi.
Oui, alors j'ai lu quelques textes te concernant et tu parles beaucoup du fait que tu es imprégné par mère nature. J'aime beaucoup cette expression mère ouais. nature. Est-ce que tu peux nous introduire un peu à ton univers et nous raconter un peu cette enfance où tu traversais la forêt et ton lien avec ta mère nature?
Déjà, je pense que on fait tous partie de la mère nature.
Ouais.
Pour moi, le fait de parler de la mère nature, ou je peux dire parler avec la mère nature, je pense que ce travail raconte mon histoire.
Ouais.
De mon enfance jusqu'à aujourd'hui, parce que à chaque fois que je regarde la nature, je vois comment elle est un peu agressée, comment elle a un avenir qui n'est pas encore garanti. Donc l'idée du travail, c'est de prendre de la mère nature et de le ramener encore de la mère nature.
Tu prends de la nature et tu ramènes à la nature.
Voilà.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter tes premières rencontres avec l'art et notamment tes études donc à Dakar? J'aimerais bien savoir à ce moment-là, quand tu étudies l'art à Dakar, ouais. Qui sont tes contemporains, qui sont les artistes qui sont autour de toi à ce moment-là? Comment ça se passe? Raconte-nous un petit peu tes années de formation. Parce qu'au début, tu peins un peu tout seul, mais ensuite tu te formes à Dakar. J'aimerais bien comprendre la transition entre un art autodidacte, hein, tout le monde démarre toujours enfant, on peint, et les artistes, c'est ceux qui continuent ensuite à peindre à l'école et ensuite. Et
je pense que mon rencontre avec l'art, ça a commencé depuis mon village.
Oui.
Parce que moi, je voyais toujours la façon dont mes grands-parents et mes parents, comment ils travaillaient la terre. Et pour moi, c'était de l'art, le fait de planter, le fait de tracer des lignes, faire des trucs. J'avais commencé déjà à faire des installations dans la forêt. Tu as vu, quand on est enfant, on est dans la forêt, on essaie de créer des petites cabanes, des petits trucs, tu vois, des endroits tout dans la forêt. Après, j'ai quitté le village quand j'avais 10 ans pour aller étudier à Dakar.
Oui.
Pour aller étudier à Dakar. Et après, à l'école, j'ai fait l'enseignement général jusqu'au bac. Après, un de mes professeurs qui m'avait vu en train de dessiner tout le temps en classe, il m'a dit, ah, si tu aimes l'art, il faut aller aux Beaux-Arts de Dakar. C'est là où je suis allé aux Beaux-Arts de Dakar et j'ai rencontré mes professeurs qui sont de grands artistes aussi. Comme,
alors, qui étaient tes professeurs?
Comme Viediba, Serine Baye Camara. Ouais. Il y en avait d'autres, il y a d'autres artistes que j'ai commencé à aimer leur travail, qui m'ont inspiré beaucoup aussi. Donc c'est là que j'ai fait 4 ans de formation aux Beaux-Arts. Puis je suis sorti des Beaux-Arts en 2014.
Ouais.
Là, j'ai rencontré quelques galeristes comme Galerie Atis. Et comme aussi galerie André Villepoix. Et actuellement, je travaille avec la galerie, avec OH Galerie de Dakar, qui était là tout à l'heure.
Galerie H. OH Galerie.
Oui, absolument.
Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu as commencé à travailler cette question de la reproduction d'un environnement à l'échelle de la toile. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as dit que quand tu voyais ta propre famille travailler la terre, tu voyais déjà ça comme des œuvres, hein, donc voilà. Tu voyais un graphisme, le graphisme de tracé de la terre, ouais. Et puis aussi les couleurs, parce que pour qui connaît ta peinture, on voit vraiment émaner des couleurs. On n'a pas l'impression que tu as reproduit, on a vraiment l'impression que tu as introduit, c'est pour ça que j'ai parlé de diorama, que tu as introduit de la nature.
Exactement.
On voit se dessiner des pelages d'animaux, enfin, c'est pas vraiment la nature, mais on a un sentiment de nature. J'aimerais bien que tu nous expliques comment tu as réussi à travailler cette matière.
En fait, l'idée, si tu voyais déjà les pigments que j'utilise, c'est pas carrément de la peinture industrielle, c'est des racines d'arbres,
oui.
Des feuilles et des écorces, et qu'on utilise généralement souvent. Les vieux chamans qui luttent pour la médecine traditionnelle.
Oui.
Par exemple, mon grand-père, il est chaman. Donc, quand on tombait malade d'enfant, il nous donnait des poudres, des plantes, des racines. Donc, c'est ces couleurs-là que j'utilise, qui sont pour moi comme les cendres de la nature, des feuilles et des racines mortes, tout ça. Donc, le fait de les replanter, mon travail, c'est même pas de la peinture. C'est comme si je travaillais la terre.
C'est ça.
La toile, elle est par terre. Donc le fait de jeter les pigments, de replanter et de laisser la toile d'or, la pluie passe dessus, la poussière, c'est comme si, voilà quoi, comme si je travaillais la terre et je semais les graines et j'attendais que les formes poussent.
C'est un petit peu ce qu'on ressent aussi quand on regarde ta peinture. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ta propre communication avec la nature animale?
Ouais. En fait, pour moi, les animaux dans mes toiles, c'est comme des prétextes, en fait. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, dans mon travail, je cherche juste une vie.
Oui.
Peu importe la forme. Et les animaux, ça me rappelle mon enfance. Quand je traversais la forêt, on entend les animaux. Mais on avait peur de les regarder ou de les découvrir. Et dans la forêt, quand on marche dans la forêt, par exemple, on ne choisit pas quel animal on va croiser. Et dans mes tableaux, c'est comme ça. Je veux juste que la personne puisse rentrer à l'intérieur, qu'elle puisse trouver des formes de vie. Et nous aussi, on est des animaux, même si on est des êtres humains. Mais et l'être humain qui se met devant mon travail, j'ai envie qu'elle rentre dans mes toiles comme si elle marchait dans la forêt.
Ouais.
Et elle découvre, au fur et à mesure que vous regardez, vous découvrez des formes de vie. C'est comme ça, oui.
Alors, ce qui est étrange, c'est que tu parles donc de ces souvenirs de forêt et on imagine le son de tes peurs, hein, de tes peurs d'enfant. Donc, on entend presque ces sons, mais ta peinture est silencieuse.
Exactement. Pour moi, le silence a plus de bruit même que le son. Parce que quand vous êtes seul, Vous parlez tout seul, vous parlez, il y a tellement de bruit. Et pour moi, le son, même quand je marche dans la rue, par exemple, tu entends quelque chose.
Oui.
Et dès que tu entends ça, tu as déjà l'image dans ta tête. Et mes toiles, c'est ça en fait. C'est le son qu'on entend quand on marche dans la forêt.
Oui.
C'est ce son-là que j'essaie de capter, d'essayer d'imaginer, par exemple. Ah, ça c'est un animal peut-être. Hein? C'est comme ça.
Est-ce que tu dirais que ta peinture t'a aidé à transcender les peurs de l'enfance?
Oui, je peux dire oui. Parce qu'en fait, à un moment donné, j'avais plus peur en fait. À un moment donné, c'était un jeu. Et jusqu'à présent, j'ai cette peur. Aujourd'hui, on sait comment le monde est chaotique et tout ça. Tous ces sons-là que j'entends aussi, ça me renvoie de mon enfance quand je marche aussi dans les rues, que ce soit à Dakar, à Paris, n'importe quel pays.
Alors, parlons maintenant plus construction et analyse peut-être formelle de ta peinture. Alors, quand on regarde ta peinture, on cherche les formes connues parce qu'on sent qu'on a un concentré de nature là-dedans. Et pourtant, ce sont de pures abstractions.
Ouais.
Est-ce que tu es plutôt du côté de la figuration ou plutôt du côté de l'abstraction?
Pour moi, l'abstraction, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire l'abstraction et figuration, parce que déjà, la toile est une forme d'abord. Et je pense que, en fait, au premier vue, quand tu regardes mes toiles, tu penses que c'est de la pratique, c'est de l'art abstrait. Mais quand tu te mets dedans, tu vois les formes.
Oui.
Et pour moi, l'abstrait existe juste jusqu'à ce que tu transcendes cette limite, parce que l'abstraction, d'habitude, les gens ils voient pas quelque chose de clair. Et le fait d'avoir une toile abstraite à distance et être à l'intérieur de la toile et voir des formes, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper, hyper important, parce que d'habitude, les gens, ils reculent pour voir des œuvres d'art. Et moi, je veux que la personne rentre dedans.
C'est exactement ce qu'on fait.
Trouve sa place dedans.
Est-ce que tu peux nous dire maintenant, pour qu'on comprenne aussi ton parcours, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent ce podcast et qui veulent comprendre quel est le cheminement entre un jeune qui vient d'un village reculé. Les parcours des artistes au Maroc ressemblent évidemment au parcours des artistes du Sénégal. Mmh. Un petit village, une école des beaux-arts, ouais. Dakar, Tétouan chez nous. Mmh. Et ensuite, une première collab dans le cadre d'une biennale, petit centre d'art, etc. Mmh. Puis galerie, puis le marché international. Mmh. Quelles ont été pour toi les étapes clés, les étapes fondamentales dans ton parcours? Est-ce que tu peux nous dire comment tu as cheminé à travers tout ça? Quelle était ta compréhension déjà de tout ça quand tu étais au Beaux-Arts de Dakar? Et comment tu as fait pour... Parce que tu as bien circulé à l'intérieur de ce contexte qui n'est pas facile.
En fait, je peux dire que j'ai eu la chance d'être découvert juste après l'école par la galerie Attis.
Oui.
Bon, au début, ce n'était pas facile. Là, à Dakar, on peut dire qu'on a une école des beaux-arts, mais pas carrément. C'est quelque chose à refaire, quoi.
Oui. Elle ne vous introduit pas directement au monde, au marché de l'art, en fait,
non,
c'est ça?
Non. Au début, je pense qu'on peut être là, 20 à 30 artistes à sortir, étudiants à sortir des beaux-arts, mais il y aura deux ou trois qui auront la chance d'avoir une galerie, d'être exposés. Moi, la chance que j'avais, c'est que mes professeurs, ils m'ont donné un coup de main aussi. Après, parce que quand je suis sorti de l'école, ils ont appelé la galerie. Ils ont dit, il y a un seul artiste peut-être à qui tu dois suivre. Donc, je peux dire que ce n'était pas si difficile.
Donc ça, c'était en quelle année?
En 2014.
2014. Ouais. Donc, quand je te découvre en 2018 à Dakar, tu es déjà bien, bien lancé, en tout cas à Dakar.
Ouais. Parce que j'ai commencé à exposer en 2015 à Dakar.
Ouais.
Après, voilà, 2015, j'ai commencé avec la galerie, on avait fait Art Paris. Je pense que notre première interview avec Diptyque, je pense que c'était avec Art Paris.
Certainement.
Ouais. Mais pour moi, ce n'était pas si difficile. On peut dire que c'est un coup de chance. Mais actuellement, si tu vois les autres jeunes de ma génération,
ouais,
c'est pas facile pour eux de trouver une galerie, d'être dans le marché international.
Ouais.
Et tout ça.
Non, bien sûr que ce n'est pas facile. Et alors, du coup, ensuite, quelles ont été les galeries qui ont compté pour toi, galeries donc non sénégalaises? Anne de Villepoix.
Il y a la galerie Anne de Villepoix.
Oui.
Il y a aussi la galerie Citer Senghor, avec qui on avait fait 154,
ouais,
Londres. Et il y a une galerie aussi qui m'a beaucoup marqué aussi, qui est à Berlin. Michel Fuchs Gallery.
Oui.
Ouais. Et aussi, avec ma galerie aussi, qui s'ouvre actuellement sur le plan international, au H Gallery.
Oui. Yeah. Donc aujourd'hui, quelles sont les galeries qui te représentent aujourd'hui? Donc tu as
J'ai la galerie 38.
La galerie 38.
Ouais, qui est ici.
Tu étais en résidence à Montresseau.
Oui, là je suis en résidence à Montresseau. Ouais. Et ouais, actuellement, je peux dire que j'ai deux galeries, quoi. Bon, j'ai une seule galerie officielle qui me représente carrément à 100%, c'est OH Galerie,
oui,
de Dakar. Et je fais des collaborations avec d'autres galeries comme Galerie 38, comme Galerie Anne de Villepoix.
Oui. Ouais. Alors, tu peux nous parler un peu de tes projets? Est-ce que tu as des projets importants en préparation?
Oui, il y a la Biennale de Dakar qui arrive.
Oui.
Bientôt. Et il y a aussi... une nouvelle galerie qui va s'ouvrir qui s'appelle, qui est à Tokyo, qui s'appelle Espace 1. Et que ça va être mon prochain projet, ça va être là-bas.
Et à Dakar, donc tu vas exposer dans le cadre, tu es dans l'expo du Palais de Justice pour,
ouais,
la Biennale de Dakar.
Je suis sélectionné dans les IN.
Ouais.
Et je fais aussi un autre projet personnel off avec ma galerie, aux galeries à Dakar.
D'accord. Eh ben, merci beaucoup Aliou pour cet entretien. Merci d'avoir été là. Et donc, on va voir tes œuvres ce soir à la Galerie 38. D'accord, et merci. À Montresseau aussi, voilà. En résidence.
Oui, à Montresseau. Oui. Je pense qu'il y aura de belles choses à voir.
Oui.
Inch'Allah.
Merci beaucoup.
Merci à vous tous.
À bientôt. Un immense merci à notre invité d'avoir pris part au podcast Diptyque et un grand merci à vous, chers auditeurs, pour votre soutien continu. Si cet épisode vous a captivé, nous serions ravis d'entendre vos impressions sur Apple Podcasts, sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Le podcast Diptyque est rendu possible grâce au généreux soutien de Maroc Télécom. Il est produit par Aros Konpoyo, montage assuré par Simo Bakrim. Diptyque est le magazine de référence de l'art contemporain africain. Il est produit, publié et imprimé à Casablanca, au Maroc. Vous trouvez le dernier numéro en kiosque partout au Maroc. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter hebdomadaire online sur www.diptyquemag.com. À bientôt pour le prochain épisode.